les amphis d'Amicus.
Dans cette édition spéciale, les étudiants de Master 2 de l'Université Paris Panthéon-Assas prennent la parole et partagent leur regard sur des questions juridiques actuelles autour du micro d'Amicus Radio. Aujourd'hui, Linda Bellili nous parle de la Cour de justice de la République. Épisode 3, les affaires jugées par la CJR.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode. Aujourd'hui, nous allons évoquer les affaires traitées par la Cour de justice de la République. C'est l'affaire du sang contaminé qui ouvre le bal des procès conduits devant la Cour de justice de la République. Au début des années 1980, des milliers d'hémophiles sont contaminés par le virus du sida à la suite de transfusions sanguines. En dépit des alertes sanitaires, le résultat est accablant, des milliers de morts. L'interrogation se pose alors de savoir comment retenir les responsabilités. C'est seulement 6 ans plus tard que la Cour de justice de la République verra comparaître 3 personnages politiques. Laurent Fabius, Premier ministre au moment des faits, Georgina Dufoy, ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, et Edmond Hervé, secrétaire d'État chargé de la Santé. La Cour rend son arrêt le 9 mars 1999, dans lequel elle relaxe les 2 ministres. Néanmoins, si le secrétaire d'État est dispensé de peine, il est reconnu coupable d'un manquement à une obligation de sécurité et de prudence. À mesure que la Cour de justice rend ses arrêts, un mouvement binaire s'observe. Tantôt, elle prononce la relaxe des prévenus qui comparaissent devant elle, tantôt, elle prononce une condamnation d'emprisonnement avec sursis. Quelles sont les affaires traitées par la Cour de justice de la République ? Le mouvement est amorcé par le scandale de l'affaire du sang contaminé et se poursuit en 2000 lorsque Ségolène Royal, ministre chargée de l'enseignement scolaire, est poursuivie pour complicité de diffamation publique. Elle avait accusé des enseignants de couvrir des actes de bizutage. Néanmoins, la Cour prononce la relaxe. En mai 2011, le procureur général de la Cour de cassation diligente une enquête visant Christine Lagarde, ancienne ministre de l'économie. Le parquet avait en effet relevé de nombreux motifs de suspecter la légalité du règlement arbitral qui concernait Bernard Tapie. Soupçonnée d'abus d'autorité, elle est finalement reconnue coupable de négligence, mais dispensée de peine 5 ans après le début de l'enquête. Mars 2011, 10 ans plus tard, la Cour se penche sur l'affaire du financement occulte de la campagne présidentielle de l'ancien Premier ministre Édouard Balladur. Ce dernier est relaxé du chef de complicité et recèle d'abus de biens sociaux. Toutefois, la Cour n'épargne pas le ministre de la Défense de l'époque, François Léotard, qu'elle condamne à une peine de prison de 2 ans avec sursis et à une amende délictuelle pour complicité dans cette même affaire. Ce sont des relaxes, des dispenses de peine, mais également des peines d'emprisonnement avec sursis que la Cour de justice de la République s'évertue à délivrer. Après une instruction de 10 ans, elle déclare en 2004 Michel Guilibert, secrétaire d'État aux handicapés entre 1988 et 1993, coupable d'escroquerie au préjudice de l'État. Elle le condamne à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle et 5 ans d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité. En avril 2010, la Cour se penche sur l'affaire du détournement de fonds au préjudice d'une société d'exportation de matériel de police. Elle condamne Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur au moment des faits, à 1 an de prison avec sursis pour complicité d'abus de biens sociaux. Mais comparaissant également dans les affaires du casino d'Annemasse pour complicité d'abus et recel d'abus de biens sociaux, il est finalement blanchi. En juin 2018, l'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, est soupçonné d'avoir transmis des informations confidentielles au député des Hauts-de-Seine, Thierry Solaire, à propos d'une enquête pénale qui le concernait. De fait, il est mis en examen pour violation du secret professionnel et en 2019, la condamnation s'élève à une peine d'emprisonnement d'une durée de 1 mois avec sursis et à une amende. En 2022, elle retient la culpabilité de Kader Arif, ancien secrétaire d'État aux anciens combattants entre 2012 et 2014, pour plusieurs chefs. Parmi eux, prise illégale d'intérêt, atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité dans les marchés publics et détournement de fonds publics. Finalement, la Cour le condamne à une peine d'emprisonnement de 1 an avec sursis et une amende délictuelle.
Pour nous, c'est
d'abord la consécration de la prééminence du procès judiciaire et l'exclusion de tous les autres procès. Pour nous, c'est la victoire du droit, c'est la victoire de la présomption d'innocence, mais c'est aussi, quelque part, aujourd'hui, la victoire de la séparation des pouvoirs. Je voudrais aussi vous dire que c'est la victoire d'un homme, non pas contre une institution. C'est peut-être, je l'espère, et nous l'appelons de nos voeux, le temps de la concorde retrouvée dans la famille judiciaire. Et peut-être, je l'espère, l'acceptation qu'aujourd'hui, justice a été rendue, que le droit a triomphé et que la justice a triomphé. Voilà ce que je voulais dire dans l'intérêt d'Éric Dupond-Moretti, que nous avons eu avec Rémi Lorrain, qui va vous dire quelques mots, vraiment le grand honneur de défendre.
Maître Jacqueline Lafont, que nous venons d'entendre, s'est exprimée à l'issue de la dernière affaire ayant intéressé la Cour de justice de la République, dans laquelle elle défendait, avec Maître Rémi Lorrain, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. C'est la première fois qu'un ministre en exercice et chargé de la justice, qui plus est mis en cause dans une affaire intéressant la Cour. Soupçonné d'avoir abusé de ses fonctions pour régler quelques comptes avec des magistrats, avec lesquels il avait eu maille à partir quand il exerçait la profession d'avocat, Éric Dupond-Moretti est poursuivi pour délit de prise illégale d'intérêt. En l'espèce, lui était reproché le déclenchement d'enquêtes administratives à l'encontre de 3 magistrats du parquet national financier et à l'encontre d'un juge d'instruction. Pendant la phase d'instruction, plusieurs institutions sont entendues. Au terme des débats, le procureur avait requis 1 an de prison avec sursis. C'est seulement à l'issue d'un délai de 3 ans de procédure, 2 semaines de procès et de 10 jours de délibéré que la Cour se prononce le 29 novembre 2023. Constatant que l'élément matériel de la prise illégale d'intérêt était bien constitué, elle prononce la relaxe du ministre de la Justice pour défaut d'éléments moraux. Pour l'heure, le ministre explique vouloir tourner la page et poursuivre l'exercice de ses fonctions. Cette relaxe supplémentaire vient s'ajouter au palmarès des jugements prononcés par la Cour de justice de la République. Finalement, le bilan est le suivant. Depuis sa création, la Cour de justice de la République a prononcé un jugement à l'encontre de 9 ministres et 3 secrétaires d'État. Elle déclare la culpabilité de 7 d'entre eux, dont 2 qu'elle dispense de peine. À l'heure actuelle, le nombre de relaxes s'élève à 7, représentant ainsi la moitié des jugements rendus par la Cour de justice de la République. En ce sens, se profile la réputation d'une juridiction d'exception, clémente et magnanime, très souvent amenée à écarter le prononcé de la culpabilité au profit du concept de la responsabilité. Merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast. La semaine prochaine, Anaëlle évoquera un bilan des critiques à l'encontre de la Cour de justice de la République.
Cet épisode des Amphis a été produit par Amicus Radio, avec le soutien de la Fondation Panthéon Assas, qui encourage et valorise l'entrepreneuriat étudiant. Merci à la professeure Cécile Chenet et à Aubin Jupin pour leur aide précieuse dans la coordination de ce projet. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre Amicus Radio sur les réseaux sociaux.